Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour à toutes et tous.
Alors aujourd'hui, pour notre deuxième mission de la saison, on voyagera un petit peu en dehors de notre décor habituel, je dirais même de notre zone de confort.
Exactement.
On part à l'ouest de l'Asie et ça va faire plaisir à quelqu'un. C'est la surprise pour sa rentrée, c'est Romain, le technicien de Radio Alpa. Alors aujourd'hui, les amis, on part en Inde, un pays incroyable de diversité, de complexité, qu'on va tenter de mieux comprendre. Et toi, Didier, tu nous parleras d'amour.
Oui.
Avec l'histoire de ce merveilleux tombeau qu'est le Taj Mahal.
Eh oui, un incontournable, mais tellement magnifique.
Oui, incontournable et oui, c'est magnifique.
Voilà, on va y revenir tout à l'heure.
Mais... Oui, tout à fait. Alors, un petit peu d'histoire pour commencer.
C'est ça.
C'est important de planter le décor, toujours.
Oui.
Alors, l'Inde est un grand pays très contrasté avec une histoire et une culture incroyablement riches et avec aujourd'hui un avenir prometteur. On dit de l'Inde que c'est la plus grande démocratie du monde et aussi qu'elle est devenue un acteur clé sur la scène mondiale. Alors, c'est un pays très vaste. 3,287 millions de kilomètres carrés. Alors, ça nous parle pas beaucoup. Je dirais, quelque part, faut se les représenter. Ça, c'est en fait le septième plus grand pays du monde. Et la France, en comparaison, se classe au 42e rang avec environ 640 000 km carrés.
Donc là, ça nous aide à voir la taille, quand même.
On se représente
mieux. La France multipliée est quand même XX.
Ah ben oui, ça fait
pour non, 5 on va pas fois. Faire les calculs, hein. Oui, au moins.
Ah, hein, c'est ça, à peu près.
Au moins.
Voilà, alors l'Inde est bordée par l'océan Indien, entourée même on pourrait le dire, et elle partage ses frontières au nord avec le Pakistan, la Chine, le Népal, le Bhoutan, le Bangladesh et la Birmanie. Et ses paysages sont très variés avec les montagnes de l'Himalaya au nord, il y a des plages tropicales aussi, et des plaines fertiles le long des fleuves, particulièrement du Gange. Et il faut noter quand même un désert, le désert du Thar au Rajasthan, qui est donc au nord du pays. C'est l'un des plus grands déserts du monde.
Oui, voilà. Vraiment là, tu nous adresses un tableau d'un pays très contrasté. Et quelle particularité de son climat? Je l'ai deviné un peu, mais voilà.
Oui, c'est un peu particulier le climat de l'Inde. Il y a trois saisons, en fait, pas quatre, hein, ni deux. Il y a un très court été de mars à mai, donc il fait chaud.
Ouais.
C'est sec et chaud. Et donc, ça fait quoi? Deux mois,
à peine trois mois.
Puis ensuite, il y a la saison des moussons. Ce qui est la saison des pluies, et ça dure de juin à septembre. Et ensuite, on est en hiver. Alors, c'est un hiver qui est doux, sauf dans les montagnes, bien sûr. Et c'est de novembre à février.
D'accord.
Donc, en fait, c'est, voilà, au niveau des montagnes, il peut faire très froid. À New Delhi, il peut aussi faire un petit peu froid. C'est quand même assez au nord. Mais après, très vite, on a des températures plus chaudes. Donc, du fait de la diversité du climat, des paysages, il y a aussi une grande biodiversité. Il y a plus de. Faut noter quand même, parce qu'on n'imagine pas, il y a 100 parcs nationaux. Et l'Inde possède bien sûr des ressources naturelles importantes, son agriculture et ses minerais. Et on peut dire qu'avec ses minerais, ça en fait un pays très riche.
Oui, il y a des vraies richesses en tout cas.
Des vraies richesses.
D'accord. Et alors, de sa population, on peut en dire quoi, Corinne?
Alors, c'est le deuxième pays le plus peuplé du monde, peu après la Chine.
D'accord.
C'est 1,4 milliard d'habitants et je pense que c'est quasiment le même nombre à quelques 100 000 habitants près.
Surtout qu'eux, ils progressent peut-être plus vite aussi en ce moment que la Chine, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait.
On est d'accord
exactement, on en avait parlé. Le taux de natalité en Chine, il est inférieur à 2.
D'accord.
Et pas en Inde. Alors, c'est un pays extrêmement diversifié sur le plan ethnique et linguistique. Il y a 22 langues officielles reconnues, dont l'hindi et l'anglais, qui sont les plus couramment utilisées.
Okay.
Alors, en tout, il y a 2000 langues et dialectes qui sont parlées dans tout le pays.
D'accord.
Alors, il faut quand même savoir que c'est un des pays les plus inégalitaires du monde.
Là aussi, je ne suis pas surpris.
Avec d'énormes problèmes de logement, il y a beaucoup de sans-abri. Et le salaire moyen il est de 130 dollars, mais il faut savoir que il y a des riches très riches,
ah, bien sûr,
et des pauvres extrêmement pauvres.
Ultra pauvres.
Voilà. L'espérance de vie, elle est à 67 ans et il y a un taux d'alphabétisation de 77%. Il a quand même beaucoup augmenté ces derniers temps.
D'accord.
En comparaison, bah, c'est 100% en Corée du Nord.
Oui, et c'est des chiffres vérifiables, ça, la Corée du Nord ?
Oui, non, Corée du Sud, pardon.
Ah oui, d'accord. Ce que j'allais dire, la Corée du Nord, je ne sais pas pourquoi.
Corée du Sud,
ça me dit,
Corée
je me disais, est-ce que c'est fiable,
ces chiffres ?
Oui, non,
mais je pense beaucoup à la Corée du Nord en ce moment.
D'accord, ok. Bon, voilà, Corée du Sud.
Corée du Sud.
Ok.
En Ouzbékistan, ils ont aussi 100%.
D'accord.
Et nous, pour une petite idée, 91% quand même de taux
d'accord,
d'alphabétisation.
Okay.
On n'est pas très brillant.
Pas toujours.
Voilà. Alors, l'Inde est aussi le berceau de plusieurs grandes religions.
Mmh, bien sûr.
C'est l'hindouisme, bien évidemment, mais surtout le bouddhisme qui est né là-bas.
D'accord.
Le jainisme et le sikhisme.
Oui.
Et l'islam est toujours très présent. Il y a toujours 15% de la population d'Inde qui est musulmane.
Mmh. D'accord.
Voilà.
Et alors, maintenant, faisons un peu d'histoire. Ça remonte à quand l'histoire, enfin un petit peu d'histoire sur l'Inde,
oui,
s'il te plaît.
Alors je vais pas tout remonter,
non,
mais bon, c'est une histoire qui remonte à plusieurs millénaires, hein,
oui,
c'est tracé,
hein,
avec
bien,
des civilisations anciennes évoluées, qu'on date entre 3300 à 1300 avant Jésus-Christ. Donc c'est pareil, c'est des civilisations,
ouais,
très anciennes,
bien
qui
sûr,
ont laissé des traces. Alors il y a eu la période védique,
okay,
entre 1500 et 500 avant Jésus-Christ. Alors c'est là que sont arrivés d'Asie centrale les Aryens.
D'accord.
Et c'est aussi à cette époque que seront écrits en sanskrit,
d'accord,
les fameux Védas, les textes sacrés fondamentaux de l'hindouisme, qui sont toujours en cours,
oui,
bien sûr, qui feront émerger le système des castes.
D'accord.
Alors c'est toujours d'actualité, hein, dans la société indienne d'aujourd'hui, on va y revenir plus,
oui,
loin. Et c'était aussi l'époque de la naissance de Bouddha au 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc il y a beaucoup de choses qui s'étaient passées,
ouais,
au 6e siècle, sans
c'est
parler
riche
de Confucius, hein,
oui,
rappelez.
Voilà, on en a déjà parlé.
Voilà, avec l'avènement, bah, bien sûr, de la nouvelle religion, le bouddhisme, qui fera tranquillement son chemin, mais qui quittera l'Inde des siècles plus tard pour l'Extrême-Orient. Autre beau sujet d'émission, ça.
Oui, bien sûr.
Voilà. Bon, on va sauter quelques siècles, hein,
oui,
avant de revenir sur le système des castes, après l'arrivée de l'islam au XIIIe siècle.
D'accord. Alors, on voit en Inde que l'islam a influencé les arts. Il a réussi à s'implanter comme religion ?
Oui, il va influencer en fait toute la culture et va diffuser,
d'accord,
rapidement dans le pays comme troisième religion après l'hindouisme et le bouddhisme à l'époque. Alors ce sera l'époque grandiose et ça nous fait rêver de l'Empire Moghol, l'Empire des rois moghols,
d'accord,
de 1526 à 1857,
étonnant,
avec le fameux Babur, qui est le fondateur de l'Empire moghol. Il est le descendant quand même de Tamerlan et Gengis Khan.
Ah, ça, on en a parlé aussi.
On en a parlé aussi.
Je vous invite à réécouter toute la saison 1.
C'est ça. Et puis un peu plus tard, donc au milieu du XVIe siècle, c'est l'empereur Akbar, très célèbre, hein, qui a étendu l'Empire et qui a mis un système administratif efficace et une politique, ça c'est important, une politique de tolérance religieuse.
Ouais.
Et donc c'est en 1628 que va naître Chajan, dont tu nous vas nous parler, Didier,
oui,
l'empereur aux projets architecturaux grandioses, dont le Taj Mahal,
oui,
construit en mémoire de sa femme.
C'est ça.
Voilà. Bon, on se met un petit peu dans l'ambiance, Didier.
Oui.
Moi, je vous propose d'écouter, chères auditrices et auditeurs, La vie en rose de Pascal of Bollywood.
D'accord.
Et Shreya Ghoshal.
Oui.
C'est Pascal of Bollywood, c'est un Français qui a un succès fou en Inde.
Ah tiens.
Français,
ah,
okay, français. Oui.
Alors,
oui.
Eh ben,
Pascal,
écoute,
il s'appelle.
Je suis ravi de découvrir
La vie en rose.
Allons-y vers La vie en rose.
जब से देखी उसकी आंखें हैरत में है मेरी आंखें देखो तो वो जादू जैसी सोचो तो खुशबू जैसी
मेरे खुदी मेरे
Alors voilà, on a découvert un petit peu donc ce Français qui fait un tabac en Inde, comme tu nous
c'est
disais.
C'est vrai.
Eh
bien,
écoute, moi je trouve ça très rigolo, très très sympathique.
Oui, mais c'est très sympa ce qu'il fait. Et donc, il chante des chansons françaises pour la plupart en hindi.
Oui, j'entends ça. Alors, je vous invite à découvrir un peu plus sur les réseaux ce personnage. En attendant, on va revenir à l'Empire moghol. Bah, alors, tu nous disais, il a duré jusqu'en 1858. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a disparu?
Bah, c'est simple, Didier. On se rapproche du 20e siècle et c'est le temps des colonies.
Colonisation. Eh oui.
D'accord. Et les Anglais ont débarqué.
Ça.
Et ont dominé l'Inde jusqu'à l'indépendance et la partition obtenue avec Gandhi.
D'accord.
Alors, il faudra attendre la semaine prochaine pour tout savoir sur
okay.
Gandhi.
Alors, on va être impatients.
Et tout ça, et la partition.
La semaine prochaine, ok.
Alors, en attendant, je vais expliquer ce qu'est le système des castes et ce qu'il en est encore aujourd'hui.
Mmh.
Alors, ce système façonne la société indienne depuis des siècles. Et pour mieux le comprendre, il faut remonter à la source de la création de l'Inde et s'attarder sur sa mythologie qui est devenue religion. L'hindouisme, et qui est donc à l'origine du système des castes.
D'accord.
Il faut être clair avec ça, l'hindouisme est à l'origine du système des castes.
Ok.
Mais alors, oui.
Ouais. Et alors, comment s'est créé l'Inde, et qui sont ces divinités dont tu nous parles qui ont créé l'origine de ce monde alors?
Alors c'est dans un des textes hindouistes, les textes Véda, vieux de plus de 3000 ans qu'apparaît la notion de caste. Alors dans ce Véda, il y a un chapitre qui décrit la création de l'univers et l'origine des différentes classes sociales à partir du corps sacrifié d'un être cosmique primordial appelé Purusha.
D'accord.
Et de Purusha sont issues trois autres divinités fondamentales responsables de l'équilibre de l'univers, Vishnu, Brahma, qui est né du nombril de Vishnu, et Shiva.
D'accord.
Alors, Vishnu est la divinité protectrice, Shiva la divinité régulatrice, transformatrice, voire destructrice.
D'accord.
Hein, donc, il s'équilibre. Ouais. Et ces deux divinités sont particulières, elles n'ont ni naissance ni mort, contrairement à Brahma, qui est né du nombril de Vishnu.
D'accord.
Voilà.
Et alors, tu peux nous expliquer quel est le lien entre ces quatre divinités?
Bien sûr. Alors, les trois divinités qui sont représentées partout en Inde, et surtout les objets, surtout, sont des émanations de Purusha. Et le tout fait référence à l'âme universelle. Donc, Purusha serait donc à l'origine de l'univers et des castes qui auraient été créés à partir de différentes parties de son propre corps qu'il a sacrifié. Donc, il y a les brahmanes, qui sont les prêtres et les enseignants, qui sont nés de la tête de Purusha, symbolisant la parole et la connaissance. Il y a les kshatriyas, les guerriers et les dirigeants, issus des bras, qui symbolisent la force et la protection.
D'accord.
Il y a les vaishyas, les commerçants et les agriculteurs, qui sont issus des jambes, qui symbolisent les ressources naturelles et l'économie. Puis les shudras, les travailleurs et les serviteurs, eux-mêmes issus des pieds, symbolisant le service à la société.
Okay.
Et de cette mythologie est donc née la légitimation divine de cette division sociale héréditaire que sont les castes, qu'on appelle Varna en hindi.
Okay.
Alors au fil du temps, le concept des castes a évolué, des textes législatifs hindous ont codifié les règles, etc., contribuant à rigidifier encore plus les relations dans la société jusqu'au XXe siècle.
D'accord. Vu d'ici, moi j'ai un peu de mal à... Comment le système des castes se traduit aujourd'hui? Parce que j'ai certainement des idées très préconçues là-dessus. Comment c'est vécu?
Alors, le système social des castes a été aboli par la Constitution de 1950.
Ouais.
Mais malgré les efforts...
Dans les faits, en fait.
Voilà. Hein. C'est la société, les mœurs. Les lois sont toujours en avance sur les mœurs.
C'est ça.
Il ne faut jamais l'oublier, ça. Mais malgré les efforts de réforme de certains politiques comme Gandhi, puis une législation contre la discrimination, le système des castes continue d'exercer encore en souterrain.
Encore très, très ancré.
Exactement. Alors, en résumé, on peut dire que dans ce système, chacun doit rester à sa place et respecter les devoirs liés à sa caste et les règles et coutumes qui lui sont liées.
Mmh.
Il est très difficile d'échapper à ce système, sinon on est mis au banc de la société.
Oui, et là...
Ou alors il faut se convertir à une autre religion plus égalitaire, comme le bouddhisme, l'islam ou le christianisme. Mais c'est risqué vu les conflits interreligieux récurrents en Inde.
Oui, tout de même, l'actualité nous fait dire que c'est pas si simple.
Voilà.
Alors, la mixité sociale, les mariages interreligieux, c'est pas possible alors?
Alors, ça, c'est très rare dans les milieux intellectuels, je dirais aisés le plus souvent.
Mm-hmm.
Mais on se marie entre soi, on se mélange pas, et on se mélange pas avec les intouchables.
Oui, alors ça, les intouchables,
alors,
je connais le nom, mais tu peux m'en dire plus, c'est quoi ? Qui sont ces intouchables ?
Alors, ce sont les personnes qui sont nées en dehors des castes supérieures issues du corps de Purusha.
Ouais.
Ils ne sont ni la tête, ni les pieds, ni les bras.
Ah d'accord.
C'est ceux qui sont hors de ça. Qui sont ni brahman, ni shudra, ni... Voilà, c'est ceux qui sont hors du système.
Eh ben.
Voilà, et on les appelle les dalits. Et ça vient de la croyance selon laquelle un simple contact avec les intouchables, ces personnes-là, pouvait causer une pollution rituelle, vu que les dalits étaient traditionnellement assignés à des tâches considérées comme impures ou polluantes, comme le nettoyage des latrines, l'élimination des carcasses d'animaux, et Dieu sait s'il y en a en Inde avec les vaches, tout ça. Le travail du cuir, la gestion des déchets et tout le travail domestique jugé dégradant. Alors on peut dire que les dalits, donc les intouchables, ont été ostracisés et contraints de vivre à l'écart des autres communautés, et ils sont toujours discriminés socialement et économiquement.
C'est terrible comme vie.
Voilà. Alors, les mouvements de réforme du milieu du XXe siècle ont introduit des mesures de discrimination positive qui ont permis à des intouchables d'obtenir des postes importants, comme le célèbre ministre Ambedkar, qui a été un leader politique et social clé comme Gandhi.
Okay.
Ambedkar, il a notamment joué un rôle crucial dans la rédaction de la Constitution indienne de 1950, donc celle qui est de l'indépendance.
D'accord, hein, toujours en cours.
Qui est toujours en cours, modifiée, mais que toujours en cours.
Bien sûr.
Et depuis, les intouchables ont quand même accès à l'école publique et peuvent pratiquer toutes les professions. Ça, c'est vrai.
Ah.
Et ils sont donc, les intouchables, un peu plus de 200 millions. Pour 1,4 milliard d'habitants. Ça fait 16% de la population.
Tout de même.
Voilà. Bon, mais ceci dit, la société quand même évolue. Il y a un peu plus d'égalité, excepté dans les zones rurales comme le Rajasthan, qui reste très, très traditionnel.
Ouais.
Alors, pour en savoir plus et pour mieux comprendre, moi, je vous recommande la lecture d'un livre qui s'appelle « L'équilibre du monde » de Rohinton Mistry. C'est un roman historique passionnant.
Ah.
Et le merveilleux film bollywoodien et aussi tragique qui s'appelle Devdas, dont on va écouter une chanson de la BO. Voilà, c'est Devdas, Silsilaye Shahatka.
D'accord, alors écoutons Devdas.
Après la chanson de l'histoire d'amour de Devdas,
c'est ça.
Tragique.
Oui.
Tu vas aussi nous émouvoir en nous racontant l'histoire du Taj Mahal.
Je vais essayer. Je pense que c'est pas trop difficile de vous émouvoir avec une telle histoire.
Oui. Sortez vos mouchoirs.
Oui, je pense plutôt.
Les amis, Radio Alpa.
Et oui, c'est quand même le plus célèbre, le plus émouvant des mausolées, un monument sublime. Je pense que tout le monde a quand même l'image.
On est d'accord.
Quoi,
oui, on est d'accord.
D'accord.
Pour dire ça.
C'est ça. Inspiré par l'amour quasi divin qu'un homme a pour sa femme, le Taj Mahal, c'est le symbole de l'amour éternel. Ceux qui l'ont vu en gardent un souvenir poignant. J'ai eu quelques personnes qui l'ont fait et ils ont toujours des étincelles dans les yeux quand ils m'en parlent. Il est situé donc à Agra, sur les rives de la rivière Yamuna, à 195 km de New Delhi. C'est un tombeau commandé par l'empereur moghol Shah Jahan, en mémoire de son épouse bien-aimée, Mumtaz Mahal, qui est décédée en 1631 en donnant naissance à leur 14e enfant.
Oui, 14 enfants, la pauvre.
Oui.
Alors, comment a-t-il été construit ce mausolée et en combien de temps, Didier ?
Alors, sa construction a duré 21 ans. de 1632 à 1653. Elle a mobilisé environ 20 000 artisans et ouvriers.
Wow.
Oui, quand même, hein, provenant de toutes les régions du pays.
Mais ça n'a pas duré longtemps, 21 ans pour construire quand un on tel voit monument. Hein.
Voilà, c'est ça.
Bah oui,
c'est un
il fallait
exemple...
du monde.
Ah ben c'est ça, oui, il y avait de la manœuvre. C'est un exemple classique de l'architecture moghole qui mêle des éléments de l'architecture islamique, persane, ottomane et indienne. Alors sa base est en briques de grès rouge recouverte de marbre blanc, translucide, blanc car c'est la couleur du deuil pour les musulmans. Il est richement décoré de pierres précieuses et semi-précieuses, de motifs floraux sculptés et son architecture a une symétrie parfaite vue de l'extérieur avec ses deux dômes et ses quatre minarets. J'imagine que tous les auditeurs ont bien l'image. Il est entouré d'un très beau jardin divisé par des chemins d'eau dans lesquels il se reflète parfaitement. C'est photogénique au possible.
Oui. Alors, qui étaient Shahjahan et Mumtaz, Didier ?
Alors,
ce couple mythique.
Oui, Shahjahan est né en 1592. Il était le cinquième empereur moghol de l'Inde et il a régné de 1628 à 1658. Mumtaz Mahal, née elle en 1593, c'était sa troisième épouse, sa favorite et sa conseillère. Ils se sont rencontrés très jeunes pour la première fois à la cour moghole. Ils se sont mariés en 1612. Shahjahan avait environ 20 ans et Mumtaz, elle, 19 ans.
Oui, c'était assez vieux pour se marier pour l'époque.
C'est ça. Leur mariage était considéré comme un mariage d'amour, ce qui était plutôt rare, vous l'imaginez bien. Elle a donné naissance à 14 enfants, dont 7 ont survécu jusqu'à l'âge adulte. Mais en 1631, Mumtaz Mahal va mourir tragiquement à l'âge de 39 ans en donnant naissance à leur 14e enfant. Alors Shahjahan, se sentant responsable, sera inconsolable.
Ah oui, il était très amoureux.
Et voilà. Et donc, pour honorer la mémoire de son épouse adorée, Shahjahan va entreprendre la construction de son tombeau avec l'idée de faire construire le sien en marbre noir de l'autre côté du fleuve.
Waouh,
bah ouais, oui. Magnifique. Hein. Imagine si ça s'était fait.
Oui,
vous allez savoir que ce qu'il n'aura malheureusement pas le temps d'entreprendre avant sa mort en 1666. Il sera enterré à côté de son épouse au centre du Taj Mahal, sa tombe rompant la symétrie parfaite initiale de l'intérieur du mausolée. Ah, il faut savoir que Shahjahan a eu une fin de vie plutôt tragique quand même. Il a été destitué par son fils et est devenu fou. Il passa les 8 dernières années de sa vie en prison au fort d'Agra, face au Taj Mahal. C'est tragique.
Être, hein. Oui, ça devait être horrible et ça devait le rendre encore plus fou.
Ah, j'imagine quand même. Oui, enfin, ça aide pas.
Alors, qu'est devenu le Taj Mahal après la mort de Shahjahan, Didier ?
Alors,
qu'est-ce qu'il est devenu ?
L'histoire du Taj Mahal va se poursuivre avec des épisodes tourmentés. L'Empire moghol va décliner jusqu'à la colonisation britannique en 1857, comme tu l'as dit. Il y aura peu d'informations sur l'évolution du Taj Mahal à cette époque. On peut quand même imaginer que le monument et son jardin furent entretenus régulièrement, mais on ne sait que de nombreuses incrustations de pierres, semi-précieuses ont été décelées en fait et volées quoi. Malheureusement, il y a toujours ce genre de pillage. Le Taj Mahal vu par les Anglais n'était pas une représentation du paradis comme le pensaient les musulmans. Ce n'était pour eux qu'un monument et un jardin comme les autres, mais ils entreprirent quand même malgré tout de le restaurer et de modifier son jardin pour en faire un jardin à la française, comme celui que l'on peut admirer aujourd'hui.
Et oui, ça je le savais pas. Ça. Ouais. C'est quand même incroyable, c'est un jardin à la française au Taj Mahal.
Voilà.
Et en plus fait par les Anglais.
C'est ça, c'est quand même assez risible ça je trouve.
Oui, c'est vrai. Alors Didier, on arrive au 20e siècle du coup, et puis il y avait le 20e siècle avec ses guerres. Alors comment on a pu le préserver ?
Alors le Taj Mahal a été pris pour cible à de nombreuses reprises durant la Deuxième Guerre mondiale, mais il va être protégé. Il sera camouflé et mis à l'abri des regards avec des échafaudages pour le cacher de la vue aérienne.
Ah oui.
D'abord des Allemands, puis des Japonais. Il faut savoir que la réverbération du soleil sur les murs et coupoles peut être vue à 40 km de distance. Hein, c'est quand même beaucoup.
Donc, oui, c'est beaucoup. On peut le voir de loin. Du
forcément, en blanc comme ça. Ces échafaudages servirent encore entre 1965 et 1971 pendant la guerre indo-pakistanaise. Puis, en 2001, durant une autre crise avec le Pakistan, la sécurité du Taj Mahal elle est à nouveau renforcée et le recouvrant de grandes toiles kaki. Il ne faut pas oublier que les nationalistes hindous veulent le détruire.
Hein. Bah oui, c'est un monument musulman.
Et les féministes aussi.
Oui, parce que voilà, 14 enfants, une femme à la merci de son mari.
Voilà.
Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le Taj Mahal est sauvé ou est-ce qu'il est toujours en danger?
Alors, malheureusement, oui, pour plusieurs raisons en fait. Hein. En plus de ces raisons politiques qu'on vient d'aborder, d'abord, il y a le surtourisme. Oui, c'est une carte postale, alors on la visite et on la visite beaucoup. Puis la pollution qui est encore pire car elle dégrade lentement le marbre blanc et ses incrustations. Heureusement, le gouvernement indien a pris des mesures en définissant un secteur géographique autour du monument et avec de grandes restrictions de circulation routière et d'installation d'usines. C'est grâce à de telles actions que le Taj Mahal pourra rester debout, espérons-le. Il fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, hein, vous imaginez bien, depuis 1983. Petit mot pour la fin, voilà, pour conclure. Le poète indien Tagore, prix Nobel de littérature en 1913, disait du Taj Mahal qu'il est une larme solitaire posée sur le visage de l'éternité.
Ça, c'est quand même magnifique.
Ça claque, ça.
Oui, ça claque.
Comme
alors,
le Taj Mahal qui claque.
Didier, c'était superbe histoire à retrouver aussi dans un livre passionnant qu'on trouve en poche, c'est Taj, T-A-J, de l'écrivain indien Timiri Murari. C'est un très beau moment de lecture et on sait tout sur le Taj Mahal après.
D'accord. Eh bien, écoutez, vous avez une semaine pour me lire ça.
Oui,
et
c'est
ça. Et puis pour nous dire sur les réseaux, parce qu'il y a toujours des réseaux cette année aussi,
c'est
dans
vrai.
Cette deuxième saison, pour nous exprimer ce que vous avez envie, ce que vous en avez pensé et pourquoi pas nous parler de ce livre que tu viens de leur conseiller.
J'aimerais bien qu'il nous en parle.
Ouais, moi j'aimerais bien.
Bon, Didier, Asialogie, c'est fini.
Oui.
C'est fini, les amis. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, comme disait Didier.
Ouais.
Nous réécouter le samedi matin à 9h30 et bien sûr en podcast sur radioalpa.com.
C'est ça.
Rendez-vous jeudi prochain à 12h.
Et voilà.
Salut,
c'est ce
toujours
que j'allais
sur Radio Alpa.
Surtout,
salut,
à jeudi
Didier,
prochain.
À jeudi.
Belle semaine à vous. Au revoir.
Salut. Thank you.